Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wegmans. Alors aujourd'hui, eh bien, on met le cap sur la fonderie. La fonderie est un très très chouette endroit à Molenbeek, près du Canal. Et il s'y tient pour l'instant une exposition, Beldavia. Exposition dont l'objectif est de nous faire découvrir, en le vivant, le parcours de quelqu'un qui tenterait de rentrer dans un pays dont il ne parle pas la langue. Alors pour nous présenter cette expo, eh bien on va entendre Mathias Mellaerts, qui est le directeur de la fonderie, et également Hubert Fies, qui est administrateur de l'ESBL Kisses et qui est à l'origine de ce projet. Alors c'est pas la première fois que l'exposition est présentée, elle a déjà été montrée notamment à Namur, mais sous une autre forme. La forme qui est ici à la fonderie est assez particulière et donc a l'objectif de nous faire vivre ce qu'un réfugié vit en arrivant dans un pays dont il ne parle pas la langue. En plus de Mathias Mellaerts et Hubert Fies, vous allez également entendre des interviews très courtes d'élèves de Saint-Louis à Namur. Voilà, eh bien je leur laisse la parole tout de suite. Cap sur la fonderie.
Bonjour, je suis Mathias Mellaerts, je suis le directeur de la Fonderie. Donc la Fonderie, c'est un musée, c'est aussi un service d'éducation permanente. Et il se trouve qu'on a la chance d'être situé à Bruxelles, sur un lieu tout à fait emblématique, qui est le site de l'ancienne Compagnie des Bronzes. Alors en deux mots, l'ancienne Compagnie des Bronzes, qu'est-ce que c'est ? C'est une société bruxelloise de fin 19e, début 20e, qui réalisait des objets en bronze, et notamment des sculptures monumentales. Donc une grande partie des sculptures monumentales fin 19e, début 20e, que vous pouvez voir à Bruxelles encore aujourd'hui, ont été fondues ici à la fonderie, sur le site de l'ancienne Compagnie des Bronzes, dont la fonderie aujourd'hui essaye de mettre en valeur la mémoire et le patrimoine. Voilà.
Alors, c'est un site quand même assez particulier, hein. Vous disiez, vous êtes situé à Bruxelles, mm-hmm. plus précisément à Molenbeek, pas très loin du canal. Et c'est vrai que quand on pénètre dans cet endroit, on a quasiment l'impression de rentrer dans un peu comme dans un cloître.
Tout à fait. Alors, on a la chance donc d'être situé à Molenbeek, près du canal. C'est une zone qui est assez minérale, hein, où il y a beaucoup de béton. Nous, on a la chance véritablement d'être dans un havre de verdure avec des arbres, avec de l'herbe, avec de l'espace. Et donc ça, c'est dû au fait qu'on est sur une ancienne friche industrielle. Donc il y avait vraiment de l'espace au sol qui était dédié à l'activité industrielle. Et dans les années 80, quand la communauté française a racheté le lieu, une grande partie des bâtiments étaient à l'abandon, ils étaient à l'état de ruines et véritablement de friches. Et aujourd'hui, on les a reconvertis en espaces conviviaux et en espaces ouverts. Donc, ce qui explique qu'il y a la partie du musée dans laquelle on se trouve actuellement, mais il y a aussi beaucoup d'espaces extérieurs où on peut venir flâner en été et découvrir le patrimoine de l'ancienne Compagnie des Bronzes et le musée de la Fonderie.
Donc ça veut dire que c'est un espace ouvert au public.
C'est un espace qui est tout à fait ouvert au public toute l'année. Encore une fois, hein, il y a évidemment les activités du musée, les expositions qu'on va découvrir ici, notamment Beldavia, notre nouvelle exposition temporaire. On a également un partenaire Horeca qui s'appelle Zot, donc qui sert des repas chauds sur le temps de midi et chez qui il est possible aussi de venir boire un verre ou une tasse de café. Et donc on a cet espace extérieur qui est magnifique, dans lequel chacun est invité à venir flâner en hiver comme en été.
Alors, effectivement, Mathias Mellaerts, vous nous avez parlé de la fonderie, cet espace assez impressionnant et particulier au cœur de Molenbeek, tout près du canal, un espace historique intéressant. Mais c'est pas du tout pour parler de ça qu'on est là aujourd'hui, en fait. Quand on est rentré sur le site, vous m'avez dit « Ah, regardez, attention, là, il y a un poste de douane. La fonderie, en fait, pour quelques mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, je pense, 2026, se transforme en quoi ?
En la nouvelle terre d'accueil des Belges. Donc, la Fonderie accueille Beldavia. Donc, Beldavia, c'est une exposition immersive qui aborde la thématique de la migration. Et dans ce cadre-là, on invite tous nos visiteurs à tenter leur chance dans une nouvelle terre d'accueil qui est la Beldavia. Donc, quel est le contexte ? On est en 2029. En 2029, en Belgique, et ben, vous le savez, hein, il y avait 140 000 personnes il y a plus ou moins deux semaines dans la rue. La Belgique, aujourd'hui, ça va pas très fort. Donc, on s'attend à ce que les Belges, dans un avenir très proche, doivent quitter le pays et doivent, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, aller tenter leur chance ailleurs. Et donc c'est ailleurs, cette nouvelle terre d'accueil, c'est Beldavia. Donc un endroit, une île dont on ne connaît évidemment ni la langue, ni l'écriture, ni les coutumes, ni la culture en général, et dans laquelle on va devoir essayer de se débrouiller.
Hubert Fies, vous êtes en partie à l'origine de ce projet. Qu'est-ce qui a motivé cette envie de monter cette exposition interactive Beldavia?
On a répondu à un appel à projet de la Fédération Unie de Bruxelles, un futur pour la culture après le Covid, qui consistait à, c'était un appui pour les artistes à mettre en place certains projets avec en collaboration avec des associations. Et donc on a contacté la rue Esbel, qui se trouve juste à côté de la Fonderie, c'est un partenaire historique, et pour parler d'un projet qui était l'accès au logement pour les personnes en cours d'alphabétisation ou issues de l'immigration. Donc ça, c'était le postulat de base. Donc on a commencé d'abord à animer des ateliers pendant plusieurs mois avec ce groupe d'apprenants pour d'abord les connaître et puis pour avoir leur témoignage par rapport à l'accès au logement et ce qu'ils vivaient. Donc on a animé des ateliers qui étaient de la mise en scène, des mises en situation et tout ça. Et donc on a eu ces témoignages-là. Ensuite, on a récolté toute cette matière-là pendant 6-7 mois. Et ensuite, avec ce collectif, donc il y avait un metteur en scène, un développeur informatique, un scénariste, une illustratrice, une costumière, on a concrétisé ou mis en matière, avec l'aide des apprenants, la Beldavia.
Ok. Alors, vous vous êtes basé pour créer ceci sur les témoignages et sur le vécu de toutes ces personnes ?
Donc concrètement, le visiteur, quand il arrive en Beldavia, il va tourner la roue de l'infortune et on va lui attribuer un personnage. Donc il y a trois personnages, il y a un regroupement familial, un migrant économique ou un réfugié politique. Et ces parcours sont directement inspirés de ce qui se passe en Belgique et des témoignages qu'on a récoltés durant ces ateliers. Et en plus de ça, tous ces ateliers avec les apprenants nous ont permis d'inventer la culture de Beldavia. Donc ça veut dire que c'est une monarchie matriarcale, il y a des manières de se dire bonjour, il y a certains vocabulaires et tout ça, ça a été créé en collaboration avec les apprenants.
Oui, parce qu'il faut quand même que ce soit clair pour les auditeurs. Donc quand on arrive en tant que hypothétique réfugié beldavien, on ne parle pas la langue, on ne sait pas lire ce qui s'y passe et on est complètement perdu.
C'est le principe, hein. Donc ça fait vraiment partie de l'expérience immersive et c'était vraiment une volonté à la fois de Kizas et de la Fonderie, c'est un fil rouge aussi à la Fonderie, c'est d'essayer de mettre les gens en situation et d'essayer de parler évidemment à l'intellect, à l'esprit, mais aussi au corps via une mise en situation complète. Donc corporelle quand on arrive dans l'espace d'exposition, donc en Moldavie, effectivement on est perdu. On est perdu, on ne sait pas où aller, parce que rien n'est écrit ni en français, ni en irlandais. Et on va devoir se diriger vers un arrêt de bus. Voilà. Mais on ne sait pas où est cet arrêt de bus. Et l'intérêt pour nous, c'était vraiment de coller au plus proche de la réalité, de ce que peuvent vivre des personnes en situation de migration. Donc, au-delà des chiffres, au-delà des statistiques, au-delà des partis pris moraux ou philosophiques qu'on peut avoir sur cette question-là, il y a une expérience humaine derrière la migration, et c'est une expérience qui est difficile. Et c'est ça, c'est le message fondamental, en tout cas le premier message qu'on voulait transmettre à nos visiteurs.
Après, dans la mise en forme aussi, c'est des sujets compliqués, difficiles, mais on voulait quand même y amener un côté décalé et absurde dans la situation, parce que Moldavie, c'est une fiction, c'est un pays créé, donc on a la latitude d'aller mettre ce qu'on veut, donc d'aller dans la caricature, et donc le visiteur, il va passer par différentes émotions, la frustration, mais il va rigoler aussi, il va passer dans différentes émotions. Voilà, il aura quand même un objectif. Donc oui, en effet, il va être perdu dans le langage. Moldavie est en moldavien, mais sur les écrans tactiles, on peut quand même suivre le parcours en français ou néerlandais à la manière de le héros dont je suis, dans l'histoire dont je suis le héros, pour quand même pouvoir avancer. Donc on donne quand même dans le parcours certaines clés pour pouvoir avancer, pour que ça soit pas totalement déroutant, mais assez pour se rendre compte à quel point la barrière de la langue est difficile.
Clé que un vrai migrant n'a pas.
Alors qu'il n'a pas quand il arrive, mais qu'il finit à avoir en apprenant progressivement la culture, en apprenant progressivement la langue. Et dans l'exposition, donc il y a effectivement un espace où on peut apprendre le moldavien pour apprendre à rédiger des formulaires, apprendre à s'en sortir dans l'administration et petit à petit prendre connaissance des droits qu'on peut avoir, des marges d'action qu'on peut avoir en termes de recherche de logement, de recherche d'emploi. Et c'est ça qui est important de souligner aussi, c'est que évidemment, donc je le disais, à la base, l'idée c'est de créer un choc et de mettre vraiment le visiteur en situation de difficulté incarnée. Mais bien évidemment, tout au long du parcours, il y a des pistes qui permettent, en tout cas qui invitent à s'en sortir, à se sortir d'une situation qui est difficile pour aller vers un mieux. Qu'est-ce que ce mieux, comment y arriver? C'est à cela qu'on invite le visiteur. Et donc, il y a, comme le disait Hubert, on a aussi joué sur tout le côté absurdité de la situation. Donc, quand on fait le parcours de Moldavie, il y a aussi véritablement un plaisir à découvrir les situations, à être bousculé, ça c'est toujours bien présent, mais aussi de l'humour, un humour propre à l'absurdité moldavienne, auquel les différents visiteurs qu'on a eu en tout cas ont été très sensibles.
En fait, c'est une expérience assez originale que j'ai jamais fait. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, surtout au début, on comprenait pas la langue, on comprenait pas ce qu'ils disaient, en fait, on était un peu perdu. On pouvait ressentir en fait ce que les gens qui viennent de notre pays, à cause de multiprésence, ce qu'ils ressentaient vraiment, parce que généralement on les comprend pas, et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plusieurs problèmes dans le monde. Et je me rends compte à quel point c'était difficile. Moi aussi, quand mes parents ils sont venus ici, m'ont expliqué à quel point c'était difficile aussi. Maintenant que moi-même j'ai pu un peu expérimenter de manière fictive, je ressens un peu ce qu'ils ont ressenti aussi. J'étais avec mes amis, du coup on a beaucoup ri, mais aussi j'étais aussi un peu dans la compréhension, surtout on me demandait d'aller à multiples endroits, je savais pas où aller, je comprenais pas les écritures. En fait, c'est vraiment quand même difficile, surtout pour apprendre la langue, on devait écrire et tout, c'était compliqué, c'était facile.
Alors, peut-être avant de se lancer dans la découverte de l'exposition, vous-même, personnellement, Mathias, Hubert, est-ce qu'en travaillant sur ce projet, vous aussi appris des choses? Est-ce que tous ces témoignages vous ont amené à des prises de conscience que vous n'aviez pas auparavant?
Moi, ce qui m'a le plus touché et bouleversé, en fait, d'une certaine manière, la première fois que j'ai fait le parcours complet, c'était de se rendre compte que cette difficulté administrative, cette absurdité aussi qui est parfois rencontrée par les migrants, en fait, c'est pas un problème ou une difficulté qui est liée uniquement à une catégorie de personnes qui sont les personnes en situation de migration. C'est quelque chose que n'importe quelle personne vivant en Belgique peut vivre. Je pense que quiconque a déjà essayé d'avoir ses droits d'allocation de chômage ou ses droits liés à la mutuelle, tout en par ailleurs travaillant, s'est déjà confronté justement à ces difficultés. Et donc en fait, ces difficultés que chacun et chacune peut rencontrer, elles sont condensées dans un parcours de migration. Donc je pense que ce qui m'a le plus bouleversé, c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a un continuum de violences systémiques ou en tout cas de difficultés administratives face auxquelles tout le monde en Belgique est confronté. Et donc c'est un élément parmi d'autres, mais qui permet vraiment de renforcer une compréhension plus fine et plus juste de ce qu'est un parcours de migration, et aussi de faire naître, c'est un des objectifs, de l'empathie pour des gens, en fait, qui vivent une situation qui, théoriquement, ont des droits, mais concrètement, on se rend compte que l'accès aux droits n'est pas aisé. Et c'est peut-être ça qui est le plus révoltant. Qu'on soit d'accord ou pas sur les droits, peu importe, à partir du moment où il y a des droits, où on dit telle et telle personne doivent pouvoir avoir accès à tel et tel droit, ça devrait pouvoir être le cas. Or, que ce soit pour la mutuelle, pour le chômage ou pour un parcours de migration, on se rend compte que c'est excessivement difficile et c'est injuste.
Hubert ?
Moi, à titre personnel, je travaille dans le documentaire depuis une vingtaine d'années. C'est des sujets que j'ai déjà abordés. Donc, par rapport à ces inégalités-là, par rapport à la difficulté d'être migrant dans un pays et tout ça, j'étais déjà très sensible à ça. Alors, est-ce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans ce sens-là? Non. Mais dans l'autre sens, où on rencontre des personnes, où on a des témoignages singuliers, là, on apprend vraiment aussi de l'intérieur. Donc, dans des projets comme ça, on sait les problématiques globales, mais s'intéresser vraiment aux personnes et au vécu et ce qu'ils endurent, c'est toujours un apprentissage de toute façon. Ce qui était aussi pour moi très très nouveau, c'est la forme de l'Expo Action. C'est notre première Expo Action. C'est la première fois qu'on met ce genre d'expérience en place, donc et en collaboration aussi, en co-création avec tout un groupe de personnes qui n'a pas vraiment l'habitude de travailler dans le monde de la culture. Donc tout ça, c'était une expérience très enrichissante à mon point de vue, et qui contribue d'une certaine manière, qui a été fait d'une manière documentaire, c'est juste que c'est pas une forme de film, mais c'est une autre forme, quoi.
Alors, une expo action, ça veut dire quoi? Ça veut dire un espace interactif, un espace où le visiteur est acteur de ce qu'il fait?
Ben oui, on essaye de mettre le visiteur dans la peau de quelqu'un pour ressentir ce que cette personne pourrait vivre. Donc oui, on lui demande d'être actif de son destin, en fait.
Alors, dans le cas particulier de l'exposition Beldavia, vous avez aussi dû créer un monde. Alors, quand j'entends ce que vous dites, Mathias Mellart, pour tout ce qui touche à l'administratif, il n'a peut-être pas fallu aller chercher l'inspiration très loin. Mais à côté de ça, au-dessus de nous, là, il y a un drapeau. Il a fallu réfléchir à une structure politique, réfléchir à une langue. C'est un défi génial, non?
En fait, c'est ça. C'est pendant les ateliers, on a fait la mise en scène, et donc on mettait on se mettait tous en scène. Donc, par exemple, les apprenants prenaient un rôle. Par exemple, ils étaient douaniers dans leur pays, et nous, on arrivait, on devait essayer de rentrer dans le pays. Et donc, on inversait les rôles, et on se mettait en situation, et puis après, on débriefait de comment on s'était ressenti. Enfin, ça, c'est un exemple. Ou alors, il y a eu des. Pour faire les costumes, Valérie, qui faisait les illustrations, a commencé à dessiner la tenue des gardes Beldavia. Donc, les apprenants disaient ils auront une jupe parce que c'est un système matriarcal, et puis des longs cheveux, et puis voilà. Et donc, ils ont commencé à dessiner. Valérie a commencé à dessiner. Et puis après, avec Florine, la costumière, ils ont créé ces costumes-là. Donc voilà, c'était ludique, c'était des jeux. On a créé des jeux pour amener à ça. Et donc, en parallèle de ces jeux, il y avait de temps en temps des témoignages qui sortaient, où là, on était sur du vécu déjà plus difficile. Mais donc, c'était pas frontal, en fait. Donc voilà, on a partagé ces moments avec eux, et de toute cette matière, on en a fait Beldavia.
Donc l'exposition Beldavia est basée sur, vous l'avez dit Hubert, des recueils de témoignages au départ. Est-ce que les personnes qui ont travaillé sur le projet sont venues la visiter ?
Oui, donc ils sont venus, les apprenants sont venus visiter l'expo. Alors, un des défis qu'on a eu, c'est qu'ils voulaient vraiment garder l'anonymat. Parce qu'à la base aussi, on était parti à faire un peu plus de vidéos et tout ça. Donc, on a adapté le processus et le format. Donc, ils sont venus la première fois. Donc, on l'a montré à la Maison des Cultures de Molenbeek. Et ils sont venus, ils étaient assez surpris du résultat. Parce que, par exemple, sur le drapeau beldavien, on peut voir les couleurs blanc et rouge. Mais il y a un œuf aussi au milieu. Il y en a un qui disait... nous avait raconté une histoire d'un conte où il y avait un serpent qui pondait un œuf et tout ça, mais il avait raconté un petit peu comme ça à un moment donné, un lundi matin à l'atelier, puis c'était un peu parti de son esprit. Puis là, il arrive et puis il voit qu'il y a des œufs partout, que ça représente la Beldavie. Donc, il était très surpris que de ce qu'ils avaient livré, que finalement, ça avait une réelle importance et on avait construit tout un univers autour de ça. Donc, oui, ils étaient assez contents et assez fiers de tout ce travail-là. Et ils sont venus également à Namur. Et c'était vraiment un chouette moment de redécouvrir ça. Il y a tous les témoignages aussi sur place, parce que Beldavia, c'est fictif, mais il y a plusieurs panneaux avec des illustrations qui font référence à la situation en Belgique avec des témoignages. Et donc, il y a pas mal de leurs témoignages qui sont anonymisés. Ils étaient aussi assez fiers de dire, ah oui, ça c'est moi là, c'est ce que j'ai vécu. Et donc voilà, ils se prêtaient vraiment au jeu, malgré le contenu qui est quand même assez compliqué et difficile.
Alors, si j'ai bien suivi, c'est un projet donc qui est né au tout départ avec un financement période Covid. Mais donc, entre-temps, la situation politique a un peu changé partout. Et je dirais que vous avez été dépassé par l'actualité. Quelque part, le projet est peut-être encore plus urgent aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 4 ou 5 ans.
On a commencé le projet en 2022 et donc le postulat était de se projeter en 2029. La Belgique devient une dictature des crises économiques et politiques très compliquées. On est en 2025. Le gouvernement prend une direction vers l'extrême droite. Oui, on se dit on ne pensait pas que ça allait aller si vite de cette manière-là. Donc c'est clair qu'on peut faire un parallèle et donc de sensibiliser les visiteurs à créer du lien entre les gens, à amener de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue pour montrer que les méchants, ce ne sont pas eux. On raconte une autre histoire et on donne de nouvelles perspectives. Donc je crois que c'est important, c'est d'autant plus important maintenant.
Et ce qui était important aussi pour la fonderie en accueillant cette exposition et en donnant à voir ce point de vue, c'était d'amener de la complexité dans le débat, parce que c'est vrai, chaque semaine, on parle de sujets très difficiles, de sujets de société, notamment de la migration, mais c'est souvent, la plupart du temps, l'immense majorité du temps, sous forme de petites phrases rapides qui sont faites pour faire mouche, pour faire du buzz et pour faire beaucoup de réactions dans l'espace médiatique. Nous, ici, on a voulu faire un pas de côté, justement, et prendre plus de temps pour traiter le sujet, sortir de cette extrême rapidité et amener les gens à vivre une expérience incarnée. Dans le but, comme je le disais, d'amener de la complexité et de sortir d'un débat qui est excessivement polarisé. Et encore une fois, indépendamment des orientations politiques, il y a des gens qui vivent des situations qui sont difficiles et qui sont injustes, même tenant compte de notre propre système législatif. C'est de ça qu'on voulait parler. Encore une fois, en renouant avec le temps long, avec la complexité et en cherchant à sortir de la polarisation.
Alors un projet comme Beldavia, ça se destine à qui ?
Ben, en fait, Beldavia, c'est quand même accessible pour le public familial, on va dire des parents ou enfin des adultes avec des enfants, on va dire, à partir de, sur le site il est marqué 12 ans, mais à partir de 10 ans, si c'est bien encadré, c'est tout à fait possible de suivre le parcours. Parce que c'est ludique, parce que ça peut être comique, ça peut être déroutant et tout ça, donc c'est aussi adapté pour les enfants et les familles. Mais évidemment, c'est aussi adapté pour les groupes scolaires, parce que ça rentre dans les matières vues de citoyenneté. Et c'est aussi adapté pour tout ce qui est le secteur associatif. Et ça pourrait être clairement adapté pour le monde politique.
C'est une expo qui s'adresse à toutes les personnes qui peuvent se sentir en insécurité pour le moment et qui peuvent être amenés à se demander, tiens, qu'est-ce qui se passerait si dans quelques années moi aussi je serais amené à quitter la Belgique. Voilà, c'est une expérience de pensée. On est un petit peu dans le cas d'une dystopie, hein, même très clairement, mais je pense que beaucoup de personnes peuvent ressentir ce sentiment d'inconfort aujourd'hui et peuvent être sensibles à cette expérience de pensée-là. Qu'est-ce qui se passerait si, en fait, dans 4, 5, 10 ans, un peu moins, un peu plus, moi aussi, je devais fermer mes valises et quitter le pays dans lequel j'ai grandi ?
À partir du moment où vous visez le grand public, vous visez le public scolaire, je suppose qu'il y a aussi derrière un dossier pédagogique Maus.
Tout à fait. Donc il y a un dossier pédagogique qui a été réalisé à destination des écoles ainsi qu'à destination des associations, avec différentes thématiques qu'il est possible d'aborder effectivement dans le cadre de ces différentes animations. Donc au niveau du dossier pédagogique, qui est très complet, qui est disponible sur le site internet de la Fonderie, il y a d'abord une première partie qui retrace un petit peu l'histoire de la migration, parce que la migration en Belgique, ça date pas de 2022 ni de 2025, hein, il y a vraiment toute une histoire de l'immigration liée à différentes vagues, différentes phases, des travailleurs européens, des travailleurs extra-européens, dans le contexte des manufactures à Bruxelles, mais aussi dans le contexte du travail minier qu'il y a pu avoir en Wallonie. Donc première partie qui permet un petit peu de réaborder cette grande histoire. En parallèle aussi, une histoire de l'émergence de droits sociaux et aussi de structures associatives qui ont encadré véritablement donc ces travailleurs immigrés. Donc typiquement, si on pense, la Fonderie est un service d'éducation permanente. L'éducation permanente, dans son essence, c'est aussi ça. C'est aussi de l'alphabétisation. C'est aussi apprendre le français à des personnes qui sont en situation de migration, qui ne maîtrisent pas la langue, qui ne maîtrisent pas les codes, et donc pour qui c'est effectivement très difficile de trouver un logement et de s'en sortir dans l'administration. Donc le dossier aborde ça. Dans la première partie. Et dans la seconde partie, il y a une série d'axes pédagogiques plus spécifiquement destinés aux écoles secondaires. Donc là, on l'a distingué par année, donc en fonction des différentes années, des différents programmes. Donc typiquement, si on prend par exemple la deuxième ou la troisième année, il y a des thématiques qui pourraient tout à fait répondre aux options sciences sociales ou aux cours d'histoire-géo. Donc bien évidemment, comme je le disais, on parle des droits sociaux pour les différentes populations vulnérables. On parle aussi de la question des flux migratoires, de la question de la citoyenneté. À partir de quand est-ce qu'on est citoyen dans une société? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on peut aussi, donc ça c'est pour les plutôt la deuxième, troisième, quatrième, et pour les cinquième et la réto, il y a toutes les questions de politique publique un peu plus avancées, tout comme des analyses comparatives entre les différents systèmes d'accueil des publics migratoires en Belgique ou à l'étranger.
Faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie dit tout enflammé.
L'odeur de l'essence.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis, que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tricks. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse tout le monde, peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols. Comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreux se radicalisent. En manque d'un père, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques, tu n'es pas cool. D'autres étaient déjà nostalgiques, tu n'es pas cool. Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. logique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs? Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions donc on les cache. Sait pas gérer nos relations donc on les gâche. S'assume pas ce qu'on est donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
Vous êtes donc voilà, vous arrivez en Moldavie, qui est une île très très belle à laquelle vous voulez où vous voulez aller vivre, parce que dans votre pays, donc la Belgique, est un pays qui est en crise. Il y a une crise économique, il y a la dictature. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Et donc vous venez en Moldavie et vous êtes un personnage bien spécifique, un migrant économique, un demandeur d'asile ou un regroupement familial. Ça, ce sont les trois personnages qui arrivent ici en Moldavie. Et donc il y a les personnes qui arrivent en Moldavie doivent faire tourner la rue de l'infortune.
Je vais le faire tout de suite.
Oui, je vous en prie.
Je suis bleue.
Vous êtes bleue. Mais à ce moment-là, moi, en tant que personne qui vous reçoit dans un pays qui est soi-disant magnifique, unique, mais je ne suis pas très contente à ce qu'il y ait trop d'immigrés qui viennent dans notre pays. Donc, je vais choisir que vous êtes un migrant économique. Et donc, en tant que migrant économique, vous allez avoir un circuit bien déterminé. Et vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Vous êtes âgé de 23 ans. Et donc, vous êtes dans la situation où, depuis 2023, rien n'en va plus en Belgique. Vous avez perdu votre emploi pour des raisons économiques. Et donc, plus personne ne trouve du travail. Comme beaucoup de personnes, vous ne trouvez pas de travail et vous êtes mal rémunéré. Vous pensez de plus en plus quitter la Belgique, mais malheureusement, votre passeport belge ne permet pas d'entrer en Moldavie. Pour passer la frontière, vous faites appel à un passeur, comme beaucoup de personnes dans la réalité font encore actuellement. Et donc, vous effectuez un voyage périlleux. Vous êtes aidé par votre père qui, pour vous donner de l'argent pour ce voyage, vend sa voiture. Et naturellement, votre famille compte sur vous pour vivre. S'attend à ce que vous envoyez de l'argent, vous leur envoyez de l'argent pour qu'ils puissent vivre. Et donc, vous allez recevoir une fausse carte d'identité, qui est l'access card. C'est la seule chance que vous avez pour rentrer en Moldavie. Et vous devez faire très attention parce que vous êtes un migrant, vous êtes venu avec un passeur, donc il y a tout plein d'embouches, on va dire, entre guillemets. Avec ça, je vais vous donner un plan de la ville où il y a le circuit à suivre. Et puis, vous avez un numéro de téléphone, un faux numéro de téléphone en Moldavien. Et là, vous pouvez contacter. Vous êtes contacté par une personne ou contacter la personne pour vous faire aider. Et donc, ici, je vais charger la carte. Et donc, vous êtes un grand économique. Je crée le joueur. Je suis déjà dessus. Donc il n'y a qu'une personne, vous êtes un migrant économique en français. Je mets la carte. Avec cette carte, vous avez accès à tout le circuit, dans la ville de Moldavie, dans le pays de Moldavie. Pour cela, vous devez l'introduire ici.
Je l'applique.
Oui, vous l'appliquez, oui.
Merci. Vous pouvez maintenant vous rendre à la douane pour tenter d'entrer en Belle-Davie. C'est rassurant.
Oui, bien sûr.
Je reprends ma carte.
Vous reprenez votre carte. Et donc, vous allez ici à droite, vous montez les escaliers et vous rentrez dans Belle-Davie. Et à ce moment-là, vous allez avoir sur votre... Donc, en rentrant, vous allez voir un écran qui montre comment est la vie en Belle-Davie. Donc, tout ce qui se passe en Belle-Davie. Et ensuite, vous passez un portail. Logiquement, à ce niveau-là, il doit y avoir un Belle-Davien, c'est-à-dire que c'est un contrôleur de l'aéroport qui parle en Belle-Davien. Après ça, vous allez rencontrer, voir un écran sur lequel la reine de cette île, de l'île de Belle-Davie, vous explique ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Et après, vous déposez votre petite carte, access card, vous appliquez votre access card sur le boîtier de la douane.
Moi, je suis albanaise et ma famille m'a déjà expliqué plein de fois leur processus d'immigration. Et plein de fois, ils m'ont expliqué à quel point c'était dur, la barrière de la langue, et que les gens ne les traitaient pas forcément bien parce qu'ils ne comprenaient rien, alors que ce n'était pas de leur faute. Ils venaient justement ici pour chercher de l'aide. Et ce n'est pas ce qu'on leur offrait en premier lieu.
Alors, la Belle-Davie, en Belle-Davie, la personne de la reine est quand même proéminente. Hein.
Oui, oui, la reine Pollock, c'est sûr que c'est un personnage central. C'est une identité forte de l'île. C'est une île paradisiaque, c'est sûr, mais il y a peut-être des côtés un peu plus questionnables, c'est sûr.
C'est important de souligner qu'il est très malvenu de remettre en question ou de critiquer la reine Pollock.
Ok, oui, donc en tant que... j'étais quoi ? J'étais migrant économique, je viens de gâcher toutes mes chances.
Les Belle-Daviens et l'administration belle-davienne est excessivement sensible au degré de respect qu'on manifeste par rapport à la reine.
D'ailleurs, dans le regroupement familial, si vous avez un enfant, c'est bien de l'appeler Pollock. C'est encouragé même. Voilà.
Donc l'expo est ouverte jusqu'au 28 juin 2026, donc elle est ouverte du mardi au dimanche, c'est fermé le lundi, donc l'expo est ouverte et accessible à tout le monde à partir de 12 ans parce qu'il y a quand même un petit peu de texte à prendre en compte dans le parcours de l'expo. Et pour les réservations, alors deux portes d'entrée, soit vous venez en famille ou voilà dans un contexte plus individuel, et là on vous invite à aller sur le site de la fonderie, www.lafonderie.be, à réserver une plage pour votre visite. Vous pouvez aussi directement venir sur le site de la fonderie, bien évidemment, pour faire votre visite. Et si vous êtes une entreprise, une association ou une école, alors là, on vous invite à téléphoner à la fonderie ou bien directement à nous contacter sur l'adresse email
réservation@lafonderie.be. Réservation au pluriel ?
Réservation au singulier.
Voilà, alors je vous rappelle donc que l'exposition Belle-Davie se tient jusqu'au 28 juin à la fonderie. Eh bien, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What, 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 what,
What